Ce message a été enregistré en public au Centre évangélique de Saint-Nazaire. Prédicateur, pasteur Alain Ouvrard, toute l'équipe vous souhaite une bonne écoute.
Voilà, nous allons, si vous le voulez bien, ouvrir notre Bible dans l'Évangile de Matthieu et nous allons entreprendre cette réflexion, cette méditation. Donc, je vous donne la situation, c'est dans Matthieu chapitre 12. Matthieu chapitre 12. Et nous allons faire une très 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 courte lecture, un verset simplement. Le verset 42. Alors, Matthieu chapitre 12, verset 42, et nous lisons ceci. La reine du midi se lèvera au jour du jugement avec cette génération et la condamnera parce qu'elle vint des extrémités de la terre pour entendre la sagesse de Salomon. Et voici, il y a ici plus que Salomon. C'est Jésus qui tient ce langage dans un contexte tout à fait particulier où il a dans son auditoire des gens qui l'écoutent attentivement et des gens qui sont véritablement ses opposants, ses contradicteurs, et notamment, comme cela nous est dit un peu plus loin, je ne l'ai pas lu, mais des scribes et des pharisiens qui viennent le piéger avec des questions captieuses, avec des questions compliquées pour le mettre dans l'embarras. Alors Jésus dira, écoutez, simplement on pourrait résumer tout simplement à la question qui est posée à Jésus, nous voudrions voir un miracle, et parce que nous verrons le miracle, parce que nous allons voir un miracle, à ce moment-là nous pouvons t'assurer que nous allons croire en toi. Et Jésus, par des arguments de l'histoire, leur dire, vous savez, puisque vous ne croyez pas qui je suis, de qui je viens et où je vais, alors à ce moment-là, une reine viendra au moment du jugement de toute chose et elle se lèvera et elle vous condamnera pour ne pas avoir cru, parce que cette reine qui est appelée la reine du midi dans notre texte, que vous connaissez sous une autre appellation, la reine de Saba. Elle viendra et vous condamnera parce que, sachez une chose, qu'à cause de votre incrédulité, vous ne rentrerez pas dans le royaume de Dieu, alors que cette femme, qui était une païenne, une femme qui a fait un très très long voyage, puisque le texte nous dit qu'elle est venue des extrémités de la terre, pas tout à fait, mais pour le monde connu d'alors, ça faisait certainement très loin, puisque si vous regardez, la distance qu'il y a entre le sud de l'Éthiopie et puis Jérusalem, ça fait en gros, 2000-2500 kilomètres, peut-être plus, puis croyez bien qu'elle n'est pas venue en avion, Elle est venue à dos de chameau, avec tout un cortège royal, et ça a été certainement le grand voyage de sa vie, parce qu'elle est venue voir un homme, pas n'importe lequel, c'était Salomon. Elle avait entendu parler de Salomon, de sa grandeur, de la magnificence de son empire, de son royaume, et elle était pourtant venue écouter cet homme, pour l'entendre, pour lui poser des questions, pour voir si ce qu'on lui avait dit était véritablement exact. Alors, si elle a fait ce déplacement, elle, une grande reine de son temps, dans un grand royaume, le royaume de Saba, et que aujourd'hui, moi, le Fils de Dieu, moi, votre Messie, je suis venu au milieu des hommes pour annoncer non pas ce qui se passe sur la terre et non pas la grandeur de la terre, mais la grandeur du ciel. Alors je peux vous assurer que si cette femme a fait ce voyage pour écouter donc un homme, vous êtes même pas capable d'entendre ce que j'ai à vous dire. Vous constatez pourtant mes miracles. Vous avez vu mes prodiges. Vous savez que mes paroles sont des paroles ineffables, qui ne sont pas de la terre, mais du ciel. Alors je peux vous dire assurément que cette femme se lèvera au dernier jour, le jour du jugement, et elle vous condamnera à cause de votre incrédulité, à cause de votre refus de croire Parce que, vous remarquez, ça va être tout le fondement, la base de notre réflexion, elle dira tout simplement, voici, et voici, il y a ici plus que Salomon. Vous savez que les hommes courent la terre pour écouter d'autres hommes, pour voir ou découvrir ceci et cela. Mais une chose qui va faire la différence, c'est que Jésus était plus que Salomon. Et malgré que les choses sont dites, hier et aujourd'hui, les hommes font pas le déplacement. Ça ne les intéresse plus. Ça ne les intéresse pas. Et quand bien même Jésus parle encore à travers l'Évangile, il se révèle et il se manifeste, eh bien, à cause de l'incrédulité des temps d'hier chez les hommes et l'incrédulité des temps d'aujourd'hui, qu'est-ce qu'il restera? Que le jugement et la condamnation, non pas pour avoir fait un grand voyage, mais pour avoir tout simplement, parce que là ils se sont pas déplacés, les scribes et les pharisiens, c'était déjà sur place. Le Messie était au milieu d'eux, l'envoyé de Dieu, le sauveur du monde était là, ils n'ont pas eu à se déplacer, et quand bien même ils avaient déjà tout sur place, quand bien même ils ont entendu ce qu'ils ont entendu, mais qu'ils ont refusé de croire ce qui était dit, alors la seule chose qui leur reste, la seule alternative qu'il y a, eh bien, c'est le jugement et la condamnation à cause de l'incrédulité. Et voici, il y a ici plus que Salomon. On va aller dans l'histoire, si vous voulez bien, et vous allez découvrir avec moi quel a été ce grand roi Salomon, ce qu'il était, même s'il était grand, même s'il avait une capitale extraordinaire, Jérusalem, même s'il était roi sur un empire, parce que c'était plus qu'un royaume, qu'il ait construit le temple à l'Éternel, son Dieu, qu'il ait construit un palais qui s'appelait la maison de la forêt du Liban, extraordinaire, magnifique, le Versailles de l'époque. Alors on va découvrir ça, et je vous propose que cette histoire, nous allons la retrouver, ça va nous aider à mieux comprendre que ne méprisons pas. Quand Dieu vient appeler un homme, quand Dieu parle à un homme, ne le méprisons pas parce que nous risquons de passer à côté, et eh bien à côté de l'essentiel. Deux Chroniques, chapitre 3, quelle histoire, et vraiment quelle histoire. Et croyez bien que si le Seigneur n'est plus présent au milieu de nous, physiquement, corporellement, il l'est par son esprit, alors attention à ce que nous écoutons. L'histoire... Deux Chroniques, chapitre 9. Je vais vous raconter un petit peu les choses. Pardon, Deux Chroniques, chapitre 9. C'est bien ? Je suis affligé pour vous. Ça se voit. Alors, vous avez bien compris ? Vous avez bien entendu ? Chapitre 9. C'est bien, ça me rassure. La reine de Saba, ou de Séba, apprit la renommée de Salomon, et elle vint à Jérusalem pour l'éprouver par des énigmes, beaucoup de questions à poser. Elle avait une suite fort nombreuse, et des chameaux portant des aromates, de l'or en grande quantité et des pierres précieuses. Elle se rendit auprès de Salomon, et elle lui dit tout ce qu'elle avait dans le cœur ou sur le cœur. Salomon répondit à toutes ces questions et il n'y eut rien que Salomon ne sache lui expliquer. Quelle sagesse ! La reine de Séba vit la sagesse de Salomon et la maison qu'il avait bâtie et les mets de sa table et la demeure de ses serviteurs et les fonctions et les vêtements de ceux qui le servaient et ses échansons et leurs vêtements et ses holocaustes qu'il offrait dans la maison de l'Éternel. Elle en eut le souffle coupé. Elle dit au roi, « C'était donc vrai ce que j'ai appris dans mon pays au sujet de ta position et de ta sagesse. Et je ne croyais pas ce que l'on en disait avant d'être venu et d'avoir vu de mes yeux, et voici, on ne m'a pas raconté la moitié de la grandeur de ta sagesse. Tu surpasses ce que la renommée m'a fait connaître. Heureux tes gens, heureux tes serviteurs, qui sont continuellement devant toi et qui entendent ta sagesse. Béni soit l'Éternel ton Dieu, qui t'a accordé la faveur de te placer sur son trône comme roi pour l'Éternel ton Dieu. C'est parce que ton Dieu aime Israël et veut le faire subsister à toujours qu'il t'a établi roi sur lui pour que tu fasses droit et justice. Elle donna au roi 120 talents d'or, une fortune, une très grande quantité d'aromates et des pierres précieuses. Et il n'y eut plus d'aromates tels que ceux donnés au roi Salomon par la reine de Séba. Les serviteurs de Huran et les serviteurs de Salomon lui apportèrent de l'or d'Ophir, amenèrent aussi du bois de santal et des pierres précieuses. Le roi fit avec le bois de santal des escaliers pour la maison de l'Éternel et pour la maison du roi, et des harpes et des luttes pour les chantres. On n'en avait pas vu de semblable auparavant dans le pays de Juda. Le roi Salomon donna à la reine de Séba tout ce qu'elle désira, ce qu'elle demanda, plus qu'elle n'avait apporté au roi, puis elle s'en retourna et allait dans son pays, et alla dans son pays, elle et ses serviteurs. Voilà pour notre lecture. Imaginez-vous un peu cette rencontre entre deux prestigieux monarques, Salomon à Jérusalem et la reine de Saba, Séba, ce que l'on a appelé, eh bien, l'Arabie heureuse, hein, bien que ce soit, on peut le situer davantage dans le sud de l'Éthiopie d'aujourd'hui. Alors, qu'est-ce que l'on pourrait tirer de tout cela? On s'aperçoit que cette reine est venue sur le témoignage. Témoignage de voyageurs, de gens qui faisaient le commerce. Parce que le commerce, ça n'a pas commencé avec nous, hein. Non. Ça a toujours été dans l'histoire des hommes. Alors il y avait des échanges comme ça, des produits que l'on trouvait dans un pays, on les échangeait, puis il y avait naturellement beaucoup de choses de cette manière. Alors elle est venue à Jérusalem, courageuse, hein. Ça lui faisait à peu près au minimum aller-retour 4000 kilomètres, imaginez-vous. Et puis, quand une reine se déplaçait, eh bien je peux vous dire que c'était quand même, hein, elle venait pas toute seule. Elle venait avec toute sa cour et avec tout le prestige que cela pouvait représenter. C'était quelque chose certainement. Alors elle est venue. Mais elle est venue avec une intention. Elle est venue avec une bonne intention. Comme on lui avait parlé de ce grand roi à la tête de ce petit peuple d'Israël, mais qui était devenu un véritable empire, hein, qui réalisait tout à fait les promesses, presque les promesses que Dieu avait données à Abraham. De l'Orient jusqu'à l'Occident, du Midi jusqu'au Nord, etc. C'était le seul, hein, qui a pu, mais presque, pas tout à fait, mais presque. Alors elle est venue avec des énigmes. On aimait bien, hein, dans ce temps-là, dans l'Antiquité, et puis hein, dans tout l'Orient, peut-être encore maintenant, ça marche avec des questions, avec des réponses, etc., etc. Hein, c'était tout à fait, eh bien, très courant à cette époque. Et il nous est dit qu'elle est venue avec une suite fort nombreuse, hein, avec là des chargements de biens, des chargements de choses précieuses. Enfin bon, voilà tout ça. Et quand elle est arrivée devant Salomon dans son palais, ça l'a complètement sidérée, et là elle lui a vidé son cœur. Et nous voyons que Salomon, parce que c'était pas une visite d'une soirée, hein, pas comme aujourd'hui, hein, là notre président est parti en Chine, il est resté 37 heures, voilà. Remarquez, il faut dire que ça coûte cher. Mais bon, toujours est-il que ça durait des mois et des mois, hein, naturellement. Alors, il a répondu à toutes ces questions, et il nous a dit même, hein, et il n'y a rien que Salomon ne sache lui expliquer. Quel personnage, Salomon! Ben, vous savez, c'était le résultat, dans les premiers temps de son règne, de ce que Dieu lui avait donné. Il lui avait demandé qu'il lui donne la sagesse et l'intelligence pour conduire le peuple. Et là, il était rempli d'humilité, Salomon. Et nous voyons que ça a été l'homme. L'homme qui a été, finalement, eh bien, choisi par Dieu, après le grand roi David, pour un homme de paix, Salomon. Il n'y a pas eu de guerre avec lui, hein. Un homme de paix, un homme où il a fait beaucoup de commerce, beaucoup d'échanges, etc. Mais il y a la guerre, il y a des risques, mais dans aussi ce genre d'activité, même dans un temps de paix, ça comportait des risques, la preuve, parce que finalement, eh bien, toute cette prospérité l'a complètement fait tomber à la fin de sa vie. Hein. Ah oui, l'argent, hein. Le prestige, la bénédiction, même une bénédiction qui n'est pas gérée, eh bien, ça peut être quelque part, quelquefois, eh bien, aussi une source de de tourment et de chute. Alors, cette reine, elle a vu, elle a constaté, elle a vu ce qu'il y avait sur la table du roi, elle a vu ses serviteurs, la manière dont ils étaient habillés, les fonctionnaires, hein, elle a foulé dans tout ce qu'il pouvait y avoir pour faire marcher l'Empire, hein, jusqu'aux holocaustes qui étaient offerts continuellement dans la maison donc de l'Éternel. Et comme je le disais tout à l'heure, et on l'a vu, quand elle a vu ça, comparée peut-être à son pays, qui avait d'autres mœurs, d'autres coutumes, une autre religion, elle était vraiment estourbie, hein. Elle se dit, mais c'est pas possible que ça existe sur la terre. Mais ce qui existait sur la terre chez Salomon, c'était quand même la main de Dieu qui s'était finalement, qui avait répandu toute cette bénédiction. C'était déjà un témoignage de la grandeur de Dieu. C'est Salomon, je voudrais quand même le rappeler, c'est l'idéal du bonheur humain. C'est pour ça qu'il a écrit l'Ecclésiaste, qu'il a écrit les Proverbes. Voilà, il a même écrit le livre des Cantiques des Cantiques, parce qu'en matière d'amour, il savait de quoi il parlait. Enfin, c'est ça ce qui lui a fait perdre la tête aussi. Hein. Mais toujours est-il qu'il avait reçu cette sagesse. Et c'était impressionnant, parce que la reine, qui était une reine aussi fabuleusement riche, eh ben c'était rien du tout à côté de ce que Salomon pouvait faire la démonstration. Alors à un moment donné, elle a dit au roi Salomon, « C'est donc vrai ce que j'ai appris, hein. On m'avait dit, mais moi je pouvais pas m'imaginer. » Eh oui. Et vous savez, aujourd'hui, si je fais une petite liaison avec Jésus, hein, vous savez, quand les gens se convertissent, hein, ils avaient entendu parler de Jésus dans le contexte religieux, de leur éducation religieuse, etc., etc. Mais vous savez, franchement, hein, quand on découvre Jésus, eh bien, tout ce qu'on a entendu, c'est rien à côté de ce que l'on vit maintenant, de ce que l'on découvre, de la grâce qui est en Dieu. C'est donc vrai ce que j'ai appris de ta position, de ta sagesse, et je ne croyais pas ce que l'on pouvait m'en dire, mais je suis venu. Ça, c'est Job, hein. J'ai entendu, j'ai vu de mes yeux, et maintenant je peux vous dire que je suis convaincu. L'expérience, vous comprenez? Ah oui, si on avait vécu dans le temps de Salomon, je crois que on aurait certainement vu des choses qui ont existé après, certainement. Mais quel prestige, quelle bénédiction, quelle force, quelle puissance, quel faste! Et voici, ce qu'on m'a raconté n'est que la moitié de la grandeur, finalement. Et moi, je peux te dire, Salomon, parce que je l'ai vu, eh bien, tout cela surpasse tout ce qu'on m'a fait connaître. Alors, elle va bénir Salomon. Elle va bénir le roi, elle va bénir le pays, elle va bénir les gens. Heureux tes gens, heureux tes serviteurs. On l'a chanté tout à l'heure, hein. Heureux, heureux. Voilà, et puis l'autre petit cantique qui était avant, c'est surtout celui-ci, hein. Alors, elle va bénir Dieu, elle va bénir le roi, et elle va faire cette déclaration constatée. C'est parce que ton Dieu aime Israël, et il veut faire subsister à toujours, qu'il a établi roi sur lui pour que tu fasses justice et que tu fasses le droit. Ouais, béni soit, eh bien, ton Dieu, parce qu'il y a la notion d'amour. Il t'aime et il aime son peuple. Et il y a un enrichissement naturellement. Alors la reine, elle a donné ce qu'elle était venue. Elle pensait certainement être très large, mais quand elle est repartie avec plus de choses que quand elle est venue. Il y a eu un échange en quelque sorte, hein. Et cela nous est donné, hein, dans la description. Alors voilà l'histoire de Salomon. Si vous avez le temps, hein, ou si vous en avez la curiosité, vous lirez la fin du chapitre, il est très intéressant. Parce qu'il nous est dit qu'à un moment donné, dans le règne de Salomon, écoutez, ça fait envie aujourd'hui, hein, l'or était plus nombreux que les pierres à Jérusalem. Alors ceux qui ont été à Jérusalem, il y a de la pierre. C'est peut-être par extrapolation ou transition, on pourrait dire que vraiment, c'est le monde juif, le monde, hein, et le monde de la richesse, hein, on peut dire, hein, ils ont toujours été condamnés pour être finalement, eh bien, là, des gens, hein, qui savaient gérer l'argent et tout ça, même encore aujourd'hui, hein. Et à Jérusalem, l'or était plus nombreux encore que les pierres. Alors, c'est époustouflant. Vous le lirez, c'est très intéressant. Mais moi, je vais aller autre part. Jésus nous dit dans la première lecture, et voici, il y a ici. Plus que Salomon. Qu'est-ce que ça veut dire? Auditeur de l'évangile que nous sommes, je voudrais vous parler, non pas tant et insister sur Salomon, sa grandeur et sa magnificence, mais je voudrais vous parler du nouveau Salomon. Et vous savez comment il s'appelle, le nouveau Salomon? À la différence du Salomon humain, qui était un homme pécheur, le nouveau Salomon, c'est Jésus. Ouais, c'est Jésus. Et vous connaissez pas son palais? Vous connaissez pas son empire? Connaissez-vous son royaume? Connaissez-vous sa richesse? Autrement que de l'or, que des pierres précieuses. Autrement que tout ce qui nous est dépeint, eh bien, à travers son ancêtre, donc le roi Salomon. Le royaume est l'idéal du bonheur humain. Et voilà que le nouveau Salomon va nous parler. Il va nous parler d'une autre manière, il va nous parler d'un autre royaume, il va nous parler d'un autre palais, il va nous parler d'une autre cité. Il va nous parler, il va ouvrir tous ses trésors, qui ne sont pas d'ici-bas, mais qui sont d'en haut. Et Jésus commencera comme cela, dès l'abord et dans les prémices de l'annonce de l'Évangile. Vous vous souvenez dans le sermon sur la montagne, ce que Jésus dit, dès le départ, chapitre 6, Matthieu, il mira, mais il prendra en comparaison, et il dira, même Salomon, dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un de ces lys qui sont là, devant vous, sur cette montagne auquel je suis en train de vous parler. Et il dira, parce qu'il parlait des inquiétudes. Et vous savez, la pauvreté, c'est un sujet d'inquiétude. Mais permettez-moi de vous dire, l'extrême richesse est aussi un sujet d'inquiétude. Que l'on ait ou que l'on n'ait pas, ça ne rend pas forcément les gens heureux. Ça ne les rend pas et ça ne les amène pas forcément dans la paix. Ça ne les amène pas forcément et bien dans un véritable bonheur. Parce que le bonheur que Jésus nous annonce, contrairement au bonheur que Salomon faisait la démonstration, c'est que ce bonheur-là n'est pas extérieur, mais il est à l'intérieur. C'est pour ça que je vous parle par transposition et bien de ce Salomon, le nouveau Salomon en quelque sorte. Regardez ces lys, ils sont magnifiques, ils sont merveilleux. Eh bien moi je vous dis que Salomon, même quand il se promenait dans son palais, lorsqu'il était au milieu de sa ville, dans son empire, les vêtements de soie, les vêtements d'or qu'il portait, n'ont rien à voir à côté de ces petites fleurs que l'on appelle les lys des champs. C'est même pas comparable. Tellement la beauté de la création de Dieu, tellement la beauté de ce que, eh bien, Jésus était en train d'enseigner sur la paix intérieure, sur le bonheur d'être et de faire confiance à Dieu. C'est pour ça qu'il ajoutera, mais cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Puis je peux vous dire que le reste vous sera donné par-dessus tout, parce que les palais, les maisons d'ivoire, et puis toutes ces richesses, mais cherchez d'abord le royaume de Dieu, parce que c'est ça ce qui est important, c'est ça ce qui a de la valeur. Ouais, cherchez, et tout le reste vous sera donné par-dessus tout. Alors, cette autre richesse, Jésus la déclinera également à travers cette parole, quand il dira ceci, « Faites-vous plutôt un trésor dans le ciel. » Où les voleurs, où la teigne, eh bien, ne peut atteindre. Ce trésor, vous le faites. Et c'était toujours aussi dans le sermon sur la montagne, c'était toujours la même chose. Ce trésor, il est dans le ciel, il n'est pas sur la terre. Bien que vous sachiez que, dans votre fidélité, dans l'amour que vous avez pour Dieu, Dieu pourvoira à tous vos besoins, selon la richesse de sa grâce, et vous ne manquerez de rien. Mais celui qui demeurera et celui qui restera, ça sera le trésor qui est dans le ciel. Il est invisible. On n'a pas besoin de le montrer, peut-être nous pouvons en témoigner, mais il y a des gens qui ne sont pas assez curieux pour savoir quelle est la nature de ce trésor, de la valeur de ce trésor. Ils préfèrent que on leur montre des espèces sonnantes et trébuchantes quand ils les ont dans les mains en disant « Ah, ça c'est mon Dieu, ça c'est formidable, ça c'est beau !» Et Jésus nous parle justement. Eh bien, de ce qu'il y a quelque chose qui est encore caché et invisible, mais qui va demeurer, parce que Salomon est mort. Vous savez? Vous avez entendu, non? Il est mort, hein, Salomon. Et quand il est mort, eh bien, il a tout perdu. Comme tout homme, il a laissé son empire, il a laissé son palais, il a laissé le palais de l'Éternel, où il n'y allait de moins en moins. Il a laissé ses chevaux, il a laissé ses femmes, il a laissé toutes ses richesses. Parce que c'était bien pourtant Dieu qui lui avait donné, enfin bon, dans ce qui pouvait être moralement acceptable, mais il a tout laissé. Alors que Jésus nous dit que ce trésor dans le ciel, il est éternel, et je peux vous dire que les voleurs, aussi malins soient-ils avec leurs perceuses et tout ça, eh bien ils ne pourront pas percer celui-là. Et puis que la teigne, que la rouille, tout ça, toute cette corruption, toute cette corrosion, oui, toute cette corrosion, c'est le mot exact, eh bien, inatteignable. Il n'y a rien à faire. Ça ne bougera pas, ça ne changera pas. Et nous en arrivons au trésor spirituel de Jésus. Ce message. Parce que chez Salomon, il y avait de la sagesse. Vous avez remarqué. Il répondait à toutes les énigmes. Vous savez que Jésus répond à tous les mystères de la vie. Vous savez que sa sagesse, elle va au-delà de tout ce que nous pouvons considérer comme sagesse sur la terre. Que tout ce qu'il peut y avoir et tout ce que peut comporter ce monde, eh bien là, de glorieux, de précieux, mais ça n'a rien à voir à côté des trésors spirituels. Parce qu'en Jésus-Christ, il n'y a plus de mystère. Il répond à tout. Vous savez, les gens, on est un peu comme la reine de Saba. On vient de loin. Oui, de loin. On revient de loin. Vous savez ce que ça veut dire? C'est pas une question de kilomètres. C'est pas une question de distance. Mais quand on voit qu'il y a tant de malheureux, tant d'infortunés, tant d'écrasés, tant d'abandonnés, tant de gens désespérés dans ce monde, eh bien, moi, je dis que on vient de loin pour écouter Jésus. Quand on a faim et soif. Quand on a ce besoin de vérité. Quand on est frustré de cet amour, d'amour tout simplement, alors à ce moment-là, eh bien, il y a quelqu'un qui est assis sur le trône de Salomon, mais dans les cieux, et il veut que nous ayons une place avec lui, pour être assis aussi avec lui et partager tous ses trésors, parce que nous avons la réponse à toutes choses. Nous le chantons quelquefois, Christ est la réponse. Oui, il est la réponse à tout. Et vous savez ce que l'on peut entendre, est-ce que l'on peut savoir encore aujourd'hui? C'est rien à côté de ce qu'on va savoir de l'autre côté. Ça vous donne pas envie d'y aller, non? Ouais. Ah oui. Oui. Bon. Je vois que ça va venir. Les trésors spirituels. Alors, parmi ces trésors spirituels, il y en a quelques-uns que j'aimerais partager avec vous. Qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Qu'est-ce que ça veut dire? Trésors spirituels qui nous sont donnés. Eh bien, on va ouvrir le psaume 72 et on va peut-être comprendre davantage quelle est la nature, la valeur, l'importance et la force de ce trésor spirituel. Alors faites-vous un trésor dans le ciel. Le psaume 72 nous en parle, et vous savez de qui il est? Qu'est-ce qui est marqué dans votre Bible? Il est de Salomon, précisément. Salomon annonce le nouveau Salomon. Ouais, le roi Salomon annonce celui qui viendra, et qui sera au-dessus de lui, qui sera supérieur à tout. Alors, au verset 10, écoutez bien, les voyageurs de Tarsis, la lointaine Espagne, parce que c'est ça Tarsis, hein, c'était les extrémités du monde connu d'alors, les rois de Tarsis et les îles Péron des tribus, les rois de Saba et de Saba, de Séba et de Saba, offriront des présents, on l'a vu, hein. Tous les rois se prosterneront devant lui. Toutes les nations le serviront. Et la suite, c'est ça le trésor. Car il délivrera le pauvre qui crie et le malheureux qui n'a point d'aide. Il aura pitié du misérable et de l'indigent. Et il sauvera la vie des pauvres. Il les affranchira de l'oppression et de la violence. Et leur sang aura du prix à ses yeux. Ils vivront et lui donneront de l'or de Séba. Ils prieront pour lui sans cesse. Ils le béniront chaque jour. Et ça continue, mais je voudrais seulement rester sur ces petits versets que nous avons devant les yeux. Écoutez, il délivrera le pauvre qui crie. Oui, l'Éternel m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Pour annoncer une année de grâce de la part du Seigneur. Les malheureux qui n'ont point d'aide, ceux qui sont désolés, les solitaires, les abandonnés, les laissés pour compte de la vie, les meurtris du chemin, eh bien voilà, ça c'est l'Évangile, c'est le message. Et il aura pitié du misérable et de l'indigent. Imaginons et souvenons-nous des pérégrinations de Jésus à travers toutes les routes poussiéreuses de Palestine, rencontrons l'un, rencontrons l'autre, l'aveugle, le boiteux, le paralytique, etc., etc. Jésus a mis dans le geste miraculeux, il a mis la compassion. Ouais. Hier et aujourd'hui, Dieu guérit parce qu'il a compassion de ceux qui souffrent. C'est pas quelque chose d'automatique et de mécanique, mais derrière il y a le cœur. Il y a le sentiment divin de voir ces créatures souffrir, mille morts sur cette terre, et de leur donner enfin le bonheur s'ils veulent l'accepter. Toute la question est là, naturellement. Il sauvera la vie des pauvres pour les enrichir. Et c'est à eux qu'il a dit, faites-vous un trésor dans le ciel. Vous vous rendez compte, il y avait la pauvre veuve, vous savez, qui n'avait que deux petites pitres. Vous savez qu'elle met tout dans le, hein, voilà, elle donne tout. Et tous ceux qui avaient si peu pour vivre, qui étaient cette femme qui avait dépensé tout son argent dans l'espérance d'être guérie de sa maladie depuis 12 ans, ouais. C'est pour ces gens-là qu'il leur dira, mais vous avez besoin d'avoir matériellement, vous avez besoin d'avoir ce qu'il faut sur la terre. Jésus était déjà venu leur donner le principe pour s'enrichir par la foi, vous comprenez. La foi qui reçoit tout. Vous savez, de ne pas s'inquiéter. Les oiseaux du ciel, vous êtes plus que les oiseaux du ciel. Vous êtes plus que les lys des champs, parce que Dieu leur donne la nourriture aux oiseaux. Comme ça. Et puis, les lys des champs, ils sont revêtus. Alors ne craignez pas de ce que vous allez manger ou boire, de quoi vous serez vêtus. Parce que le Seigneur a la réponse. Mais il y avait aussi les pauvres. C'est pour ça qu'il leur a dit, par exemple, dans les Béatitudes, « Vous pleurez aujourd'hui, mais demain vous serez consolés. Vous avez faim et soif de justice, mais on vous fera justice. Vous êtes persécutés, vous êtes écrasés, mais faites-vous un trésor dans le ciel, parce que vous avez une espérance, parce que vous avez une lumière qui est au-dessus de votre tête, et vous allez rentrer dans cette lumière. Il les affranchira de l'oppression et de la violence. » Oui, le Seigneur m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres, pour libérer les captifs et affranchir ceux qui sont en effet en prison. Voilà la réponse. Et leur sang aura du prix à ses yeux, le sang d'une âme, le sang d'un homme. Vous savez à quel prix il a été payé? Vous revenez dans Ésaïe 53, vous retournez dans les évangiles, au moment et au summum de la crucifixion de Jésus, le point culminant, ce qu'on appelle la passion. Et il aura compassion. Il aura ce sang-là à du prix, parce qu'il donnera son propre sang, pour que nous puissions, nous, avoir tout ce que nous avons dit précédemment, ce que nous vivons encore. Alors ils vivront et lui donneront de l'argent de ses bas. C'est-à-dire qu'il y aura un retour. Vous savez qu'à chaque fois que nous adorons notre Dieu, que nous lui rendons grâce, nous apportons l'argent de ses bas. C'est pour ça que quand on se réunit dans un culte, allez-y. Hein. Vous pouvez y aller. Vous pouvez crier votre joie et votre allégresse, parce que jamais on sera suffisant pour pouvoir lui apporter en retour, eh bien, ce qu'il a fait pour nous. Ils prieront pour lui et ils le béniront chaque jour. Ça, c'est de la reconnaissance. Alors, je vais lire un peu la suite. Les blés abonderont dans le pays au sommet des montagnes. C'est pas là où on met le blé, mais ça pousse quand même là-haut, plus près de Dieu. Et leurs épis s'agiteront comme des arbres du Liban. Imaginez-vous la grandeur des épis de blé, alors, à ce moment-là. Les hommes fleuriront dans les villes comme l'herbe de la terre. Son nom subsistera toujours, c'est vrai. C'est vrai, Salomon le disait, et encore aujourd'hui le nom de Jésus-Christ subsiste. Aussi longtemps que le soleil, son nom se perpétuera, parce qu'il est la lumière, plus que la lumière du soleil. Par lui, on se bénira mutuellement. Les salutations fraternelles, les salutations que nous pouvons échanger avec des frères et des sœurs, et toutes les nations le diront bienheureux. Alors, moi je trouve que c'est formidable ça, hein. C'est beau, non? C'est quelque chose d'extraordinaire. Ça, ce sont les trésors spirituels qui nous sont déjà dépeints par Salomon dans une vision, et nous annonçons l'évangile avant l'évangile. Ouais, c'est prophétique, hein, tout simplement. Je terminerai par ceci. Dans l'épître de Paul aux Colossiens, il est dit ceci au chapitre 2 et au verset 3, au verset 9, chapitre 2, verset 9, cette parole. Car en lui, Dieu a fait habiter corporellement la plénitude de la divinité. Ouais. Vous ne trouvez pas que c'est quelque chose? Salomon était Salomon, un homme, un grand homme, royal. Il était l'idéal du bonheur humain, mais ce n'est pas suffisant. C'est pas suffisant pour les hommes de la terre, parce que peut-être les générations de Salomon, de David et puis tous les hommes de l'Antiquité, en nous voyant vivre aujourd'hui, avec le confort de nos maisons, nos automobiles, nos avions, et puis ceci et cela, ils pourraient dire, mais on vit, ils vivent dans l'idéal du bonheur humain, et vous croyez qu'on est heureux? On pourra multiplier, moi je ne sais pas ce qui va venir dans 50 ans ou avant, hein, ou après, peu importe. Hein. Mais c'est pas ça ce qui rend les gens heureux. Le bonheur de l'idéal humain, c'est que lorsque l'homme accepte dans sa vie et fasse de son cœur le temple nouveau, le temple de Dieu, là, à ce moment-là, ça change tout. Et quand Paul écrira ça, eh bien, il fait écho à Salomon, à ce que Salomon écrit au chapitre 72, enfin le psaume 72. « Car en lui, en Jésus-Christ, dans le nouveau Salomon, il habite corporellement, c'est Dieu, c'est le Verbe incarné, c'est Dieu qui est venu pour parler aux hommes, pour bénir les hommes, pour aimer les hommes, corporellement, pour que nous puissions vraiment l'identifier, que ce n'est pas un esprit, que notre Dieu, c'est, il s'est véritablement, eh bien, revêtu de notre humanité. Il est venu habiter corporellement toute la plénitude de la divinité en Jésus-Christ, c'est Dieu. » Oui. Et il n'est pas venu dans un palais d'ivoire. Vous savez comment il est venu ? Il n'est pas venu comme la mythologie grecque et romaine nous représente et toutes les mythologies de la terre, un dieu qui descend du ciel et qui là écrase tout et puis en disant c'est moi, c'est moi. Ouais, c'est pas comme ça. C'est pour ça que Jésus dira à ses scribes et ses pharisiens, ses détracteurs, méchants, mauvais, haineux, remplis de jalousie, fais-nous voir un miracle et nous croirons en toi. Mais quel miracle ! Eh bien moi, j'ai dit Jésus, je vous dis que la reine du Midi, la reine de Saba, lorsque le jugement viendra, eh bien elle viendra témoigner contre vous, culpabilité de comment dire, vous serez convaincus d'incrédulité et de refus de croire alors que vous avez le véritable trésor, il est venu, il est au milieu de vous, vous l'avez prié pendant des siècles et des siècles, et maintenant qu'il est là, votre Messie, vous le tuez. Vous le crucifiez, vous l'éliminez, nous ne voulons pas que cet homme règne sur nous. Voilà ce qui nous est dit également sous une forme de parabole. Il y a ici plus que Salomon. Et le Seigneur est encore là. Il est encore au milieu de nous. Je voudrais simplement faire une dernière remarque avant de terminer. Aller après un riche, c'est intéressant et c'est valorisant. Aller après un riche. Imaginez-vous, je reçois ce soir une invitation de la famille Rothschild, ce qui m'étonnerait. Je regardais quand même ma boîte mail, on ne sait jamais. C'est vrai que c'est valorisant, parce que c'est intéressant, parce qu'il est riche. Et quand on est invité par un riche, peut-être qu'il y a des intérêts. Hein ? C'est valorisant, vous vous rendez compte, mon ami s'appelle Monsieur de Rothschild. C'est vrai ? Non, c'est pas vrai. Mais toujours est-il qu'on peut se prendre. Mais écoutez, mais aller après un pauvre, de dire mon ami, il s'appelle Lazare. Vous connaissez Lazare ? Mon ami, vous savez, c'est celui qui là, ben, où il habite ? Ben, il habite pas. Il habite dans les rues. Il a rien du tout. Alors quand on va vers un riche, c'est valorisant. Mais quand on va vers un pauvre, or le paradoxe de Dieu, c'est qu'il nous a pas envoyé vers le premier Salomon, il nous a envoyé vers le deuxième Salomon, le plus pauvre des pauvres. Et là, on ne saute pas de joie quand on connaît pas. On se dit, mais il va me faire de l'ombre. Si on me voit fréquenter ce genre d'individu, si on me voit en présence de Jésus, si on me voit et si on entend dire que je prie Jésus, mais les gens ils vont dire, il est tombé sur la tête. Il est fou. C'est un petit peu ce qui se passe, non ? Vous croyez pas ? Ça va avec votre témoignage, non ? Quand vous parlez de Jésus, les gens disent « Oh, c'est formidable, vous avez Jésus pour ami, c'est extraordinaire !» Aïe, 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 c'est dur, hein ? Alors, aller après un pauvre qui s'appelle Jésus n'a rien d'enthousiasmant, à moins que nos besoins, à moins que les besoins des hommes soient tout autres. S'ils recherchent Mammon, ils vont pas être déçus, hein. Parce que le Fils de l'homme n'a pas où reposer sa tête. Les oiseaux ont des nids et les renards ont des tanières. Vous connaissez la citation biblique, hein ? Mais le Fils de l'homme, eh bien lui, c'est en quelque sorte un vagabond, hein ? Alors suivre Jésus dans ces conditions, à moins que si nous ne voulons pas de mammon dans notre vie, parce qu'on ne peut pas servir deux maîtres à la fois, alors, à moins qu'il y ait des besoins, comme nous en avons eu, comme nous en avons encore, heureusement d'ailleurs, à moins que ceux à qui nous témoignons, à moins que le monde qui nous environne, eh bien, soit en aspiration ou en désir des vraies richesses éternelles et spirituelles, alors je peux vous dire que là, ça va marcher. parce que nous ne rentrerons pas dans un temple si beau, si glorieux, si grand. Mais ça va être le contraire qui va se produire. C'est le pauvre. Le pauvre qui est pourtant ce grand Dieu tout-puissant, créateur du ciel et de la terre, rédempteur de l'humanité à travers tous les temps. Vous savez ce qu'il va faire? Il va faire de notre corps et il va faire de notre cœur le temple du Saint-Esprit. Imaginez-vous! Vous vous rendez compte? C'est nous qui allons être, eh bien, le réceptacle, le temple du Saint-Esprit. Et quand je dis je termine. Réponse à la question de Pierre qui va interroger Jésus après toute une histoire. Et Pierre va dire à Jésus ceci, nous avons tout quitté à cause du royaume de Dieu, qu'en sera-t-il pour nous? Vous savez ce que Jésus répond? Il répond, ce que nous avons besoin de savoir, parce que vous avez tout quitté, vos femmes, vos maris, vos maisons, votre travail, etc., etc., pour me donner la priorité, parce que vous avez bien compris mon intervention quand je vous ai dit qu'il fallait chercher le royaume de Dieu et sa justice par-dessus tout, fallait chercher en premier, et que vous aurez le reste par-dessus tout. Alors la réponse est celle-ci, parce que vous avez tout quitté, vous avez tout mis finalement, et bien là, derrière vous pour donner la priorité, moi je vous assure, nous dit Jésus, vous recevrez beaucoup plus dans ce siècle-ci, c'est-à-dire notre vie terrestre, et dans le siècle à venir, vous aurez la vie éternelle, le véritable trésor. Ça sera pas l'idéal de bonheur humain, ça sera l'idéal de ce royaume céleste dans lequel nous sommes invités à rentrer. Que Dieu nous bénisse. Alors je vous le répète encore ce soir, il y a ici beaucoup plus que Salomon. Le Seigneur est au milieu de nous, il nous bénit, il nous fait du bien, il veut nous sauver. Alors nous terminons simplement par quelques mots de prière et nous voulons vraiment garder ce message dans notre cœur. Que Dieu nous bénisse, que Dieu nous donne sa grâce. Seigneur, je veux te remercier et te bénir parce que si c'est écrit, c'est qu'il y a une raison. Et cet après-midi, tu nous as conduits par le Saint-Esprit à parler comme ça spontanément. C'est vrai, Seigneur, pour nous montrer que il y a quelqu'un de plus grand. Il y a ici quelqu'un de plus grand. Et je te bénis parce que je veux saluer ta présence, Seigneur, par ton Saint-Esprit. Je veux te bénir pour ta parole. Je veux te bénir, Seigneur, pour la parole qui a été donnée hier par Salomon. Je te bénis, Seigneur, parce qu'il a été la démonstration réelle d'une bénédiction de Dieu, d'une grandeur de Dieu, de la grandeur du ciel, mais ce n'était qu'un idéal terrestre. Je te rends grâce et je te remercie de ce que Salomon, dans sa sagesse, à travers ce psaume 72, a pu déjà annoncer l'évangile, celui qui serait plus grand que lui, celui qui serait véritablement, eh bien, la magnificence de Dieu sur la terre des hommes qui souffrent. Des hommes qui soupirent, des hommes qui aspirent, des hommes qui ont besoin de l'esprit de vérité et de l'amour de la vérité. Alors, ce grand trésor, où les voleurs ne peuvent ravir, percer, à travers, Seigneur, ce grand trésor qui est au ciel, où la teigne, la corrosion ne peut atteindre, eh bien, nous voulons te rendre grâce et te remercier parce que ce grand trésor, tu vas le mettre dans un petit coffre qui est notre cœur. Et ensuite, tu vas faire en sorte que nous devenions le temple, que nous soyons le temple de l'Esprit, le temple dans lequel Dieu trouve son contentement, dans un corps d'homme, dans une vie d'homme, et à travers tout cela, Seigneur, eh bien, que nous puissions porter ce trésor à tous ceux qui en ont besoin, à tous les pauvres, à tous les affamés, à tous les déshérités. Merci, Seigneur, de nous avoir donné Jésus. Quel retournement de choses! Nous savons, Seigneur, que les principes de la terre sont tout à fait à l'inverse du royaume de Dieu. Et nous t'en remercions de bien vouloir nous le signifier cet après-midi, de bien vouloir nous l'expliquer. Merci mon Dieu, merci Jésus, bénis-nous et donne-nous d'avoir des cœurs grands ouverts pour recevoir ta parole, qui est la sagesse d'en haut, la sagesse de Dieu. Merci Seigneur. Amen.
Pour écouter d'autres messages audio ou vidéo, retrouvez-nous sur www.add-saint-nazaire.fr.